fait, on avait vu le Seigneur Jésus avait commencé à guérir l'aveuglement spirituel de ses disciples. On prenait son identité et sa mission. Et c'était illustré par la guérison de l'aveugle de Bethsaida, hein, c'était produit en deux temps. Et effectivement, on avait assisté à une première étape de guérison pour les disciples, avec la confession en Pierre qui avait confessé que Jésus était le Christ, le Messie. Mais, je l'avais un peu expliqué, les disciples ils n'ont pas encore compris que le Messie est aussi le Fils de Dieu, Dieu incarné, envoyé par son Père avec une mission bien précise, qui est très différente de ce que les Juifs attendent. Les Juifs à l'époque attendaient un libérateur qui viendrait libérer son peuple du joug romain, mais en réalité, le Seigneur était venu pour libérer son peuple de l'esclavage du péché. Et comme les disciples ne sont pas encore pleinement guéris de leur aveuglement, ils voient flou, et ça on va le voir dans les passages suivants. En fait, là Jésus il va les, en quelque sorte, les prendre par la main et les conduire sur des sentiers qui sont nouveaux pour eux. Un peu comme il a conduit l'aveugle par la main hors du village. Et à partir de maintenant, donc sur les chapitres 8 à 10, en fait, à trois reprises, il va annoncer sa mort et sa résurrection. Et à chaque fois, les disciples ils vont, juste après, se planter, commettre une erreur, être à côté de la plaque. Et encore après, Jésus va leur enseigner ce que coûte et ce qu'implique la vie de disciples. Autrement dit, va petit à petit redéfinir leur vision du royaume messianique. Donc on va faire un peu comme la semaine dernière, hein, on va un peu analyser le texte, on va essayer d'en tirer une idée centrale, et puis ensuite on fera le lien avec le plan de salut de Dieu, et on réfléchira à quelques petites applications. Donc on va commencer en lisant Marc 8, les versets 31 à 38, si quelqu'un peut le lire.
Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrît beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita trois jours après. Il leur disait ces choses ouvertement. Et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprima Pierre et dit « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. » Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. »
Merci. Donc là, en fait, on voit Jésus, c'est la première fois dans l'évangile de Marc, Jésus qui annonce ses souffrances à venir, ainsi que sa mort et sa résurrection. Et en fait, dans ces paroles, il y a des choses qui sont vraiment à la fois incompréhensibles et inacceptables pour les gens de son temps. Alors d'abord, le fait que le Messie doit subir le rejet de la part des autorités juives de l'époque, même pire encore, que le fait que ces autorités juives veuillent le mettre à mort. Et puis, autre chose incompréhensible, la résurrection. Dans la culture de l'époque, on en reparlera, c'était quelque chose... Alors, les Juifs croyant à la résurrection à la fin des temps, une résurrection avant la fin des temps, c'était complètement étrange. Et on voit Jésus qui annonce ça ouvertement, et ça explique aussi la réaction de Pierre qui suit à partir du verset 32. En fait, on voit Pierre qui fait quelque chose d'inhabituel, il va rabrouer son rabbi, son maître. Et en fait, ça, c'est pareil, quelque chose qui ne se faisait pas trop à l'époque, hein, quand des disciples suivaient un maître, on ne voyait pas les disciples aller voir le maître et dire « Non, là, ça va pas, Et en fait, il pense bien faire. D'ailleurs, on voit qu'il le prend à part, parce qu'il probablement ne veut pas que ce soit humiliant. Mais en fait, la réponse de Jésus, là, elle va être abrupte, presque brutale. Et ça va les prendre probablement tous au dépourvu. En fait, il reprend Pierre et il le fait en le nommant Satan. Et là, il indique à ses disciples que s'opposer à ses paroles qu'il vient de dire, c'est faire l'ouvrage de l'adversaire. Et en parlant, on le voit regarder les disciples. Alors c'est probablement parce que Pierre, en fait, était un peu le porte-parole du groupe, leur représentant, et donc les disciples étaient concernés aussi. Et il mentionne le fait que les pensées de Pierre sont toutes humaines. Et donc, peut-être, on va lire Ésaïe 55, les versets 7 à 8, ça va nous éclairer. Si quelqu'un peut le prendre. Donc, Ésaïe 55, versets 7 à 8.
Le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées. Il retourne à l'Éternel, il aura compassion de lui, il retourne à notre Dieu, car il pardonne abondamment. En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel.
Merci. Et donc on voit ici à quel point la désobéissance et la volonté propre de l'être humain le séparent de la volonté de Dieu. Et Jésus, en fait, il reprend Pierre et lui dit en quelque sorte, retourne à ta place de disciple et mets-toi dans mon école. Et ne te mets pas l'école de tes pensées. Et en fait, en suivant, comme on l'a vu, je le disais tout à l'heure, on voit Jésus qui annonce sa mort, sa résurrection, les disciples qui se plantent, là, en l'occurrence Pierre, et puis ensuite, on a Jésus qui va enseigner. Et donc, il va appeler toute la foule, et va leur enseigner que le suivre, c'est non seulement accepter ses paroles, mais c'est aussi accepter de porter sa propre croix comme un condamné. Donc là, on est aux antipodes d'un combat victorieux contre les armées romaines, ce qu'il enseigne encore une fois très étrange pour un juif du 1er siècle. Celui qui veut suivre Jésus doit renoncer à lui-même. Et en fait, il faut vraiment comprendre que la croix à l'époque, c'était non seulement, alors bien sûr, la souffrance la plus atroce qui soit, mais c'était aussi une humiliation terrible. Et donc, parce qu'on pourrait se dire, oui, les disciples, ils ont déjà tout quitté pour suivre Jésus, mais en fait, là, Jésus, il pousse la chose encore plus loin. Et il leur dit, bah, là, vous devez renoncer à l'idée que vous vous faites d'un Messie humain, d'un Messie glorieux, conquérant. Et ça implique de se soumettre à la volonté et aux paroles de Jésus. Et ça implique aussi d'accepter les souffrances et les persécutions qui jalonnent et qui vont jalonner la vie chrétienne. Donc, c'est une image qui est quand même très très forte. Et donc celui qui est prêt à marcher à la suite, qui est prêt à ça, hein, qui est prêt à tout perdre pour marcher à la suite de Jésus, sauvera son âme, nous dit Jésus. Plutôt Jésus la sauvera, parce qu'on ne peut rien par nous-mêmes, et Jésus l'exprime bien, hein, verset 37, il dit « Que donnerait un homme en échange de son âme ?» Donc suivre Jésus pour nous semble avoir un coût, mais au regard du coût que Jésus a payé pour nos âmes, c'est totalement dérisoire. Et en fait, si Jésus utilise cette image de la croix et de l'humiliation, c'est aussi en raison de la culture de l'époque, il y a encore un lien qu'on peut faire avec la culture de l'époque, et la clé de compréhension elle se trouve au verset 38. Quand Jésus dit « Quiconque aura honte de moi et de mes paroles ». Et en fait, là, on peut faire le lien avec l'attitude de Pierre. En fait, Pierre, il a eu honte des paroles de Jésus. On est dans une culture qui est une culture collective, qui c'est pas les cultures individuelles, individualistes, comme chez nous. Et dans ces cultures-là, les questions d'honneur et de honte, c'est quelque chose qui est très important. Et c'est quelque chose qu'on a un peu oublié en Europe. Et donc, en fait, en plus de se repentir de son orgueil, celui qui veut marcher à la suite de Jésus, il doit être prêt à aller jusqu'à sacrifier son honneur. Donc, c'est quelque chose de très, très fort pour un juif à l'époque. Donc, l'idée centrale qu'on peut tirer de ce passage, hein, j'ai mis sur les feuilles que vous avez, c'est que pour être un disciple de Jésus, il faut mourir à soi-même, il faut marcher avec lui, et ça implique d'accepter la mission et les paroles du Messie, ainsi que les persécutions et l'humiliation qui les accompagnent. Alors, le lien avec l'évangile, avec la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le plan de salut de Dieu, il est assez simple ici, puisqu'on a une annonce directe des souffrances du Messie et de sa résurrection, et de l'importance de sa mission. Et le verset 31 nous montre qu'il n'y a pas d'autre solution pour sauver des pécheurs perdus. Il fallait que le Fils de l'homme souffre. Personne ne peut racheter les âmes sinon Jésus. Personne ne peut nous libérer de l'esclavage du péché sinon Jésus, par son œuvre de la croix. Et pour reprendre, faire une petite allusion à la première épître aux Corinthiens, hein, la croix est un scandale ou une folie pour les cultures humaines orgueilleuses. Je vous propose deux petites applications pour ce passage. La première, elle est un petit peu plus, elle s'adresse vraiment à tous, elle est un peu plus large. Jésus ne laisse que deux options, il n'y a pas d'autre choix, c'est soit accepter ses paroles, prendre sa croix, on l'a vu, et le suivre, soit rejeter ses paroles, et ça équivaut à avoir la pensée des hommes, et donc à vivre sous le pouvoir de Satan. Deuxième application, une question, avons-nous déjà eu honte de notre foi ? Moi, à titre personnel, quand j'étais un jeune chrétien, ça m'est arrivé. Et si c'est le cas, bien, prions Dieu de nous fortifier pour les temps à venir, qui nous donne de marcher à sa suite sans défaillir et avec audace, parce que ben, on vit des temps qui sont troublés et on ne sait pas si demain on ne sera pas persécuté, même en Europe. Et de même, on a vu que Jésus donc, nous demandait de nous charger de nos croix. Hein, la marche chrétienne est difficile et elle coûte. Mais en même temps, on sait que c'est un joug qui est léger parce que c'est le joug de la grâce manifestée en Jésus-Christ. Et donc, je voudrais aussi vous inviter à réfléchir, parce qu'on réfléchisse tous sur ce qu'on a déjà pu sacrifier pour notre foi, et à se poser la question de quels renoncements sont encore nécessaires dans nos vies pour suivre le Seigneur sans compromis. Alors, je vous propose de poursuivre. On va lire le Marc 9, la suite, hein, les versets 1 à 13, si quelqu'un peut le lire.
Il leur dit encore, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seul à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent s'entretenant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Car ils ne savaient que dire, l'effroi les ayant saisis. Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Aussitôt les disciples regardèrent tout autour, et ils ne virent que Jésus seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme fût ressuscité des morts. Ils retinrent cette parole, se demandant entre eux ce que c'est que ressusciter des morts. Les disciples lui firent cette question, « Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement ?» Il leur répondit, « Il est vrai qu'Élie doit venir premièrement et rétablir toutes choses, et que le Fils de l'homme, selon ce qui était écrit de lui, doit souffrir beaucoup et être méprisé. » Mais je vous dis qu'il y est venu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu, selon ce qu'il est écrit de lui.
Merci. Donc là, on voit au début de notre passage, hein, au verset 1, Jésus qui l'annonce parmi ceux qui sont présents. Il y en a certains qui vont voir de leurs yeux et leurs vivants l'irruption du royaume de Dieu sur terre. Alors c'est aussi une forme de réconfort après les paroles qu'il a tenues hein, sur le fait de porter sa croix. Finalement, mourir à soi-même pour voir le royaume, ça en vaut la peine quand même. Et Marc va donner le récit d'un premier accomplissement de ses paroles pour certains des disciples, en l'occurrence 3, 6 jours après. Donc ça, c'est à partir du verset 2. Et c'est l'épisode de la transfiguration. Donc on voit Jésus qui monte avec 3 disciples, Jacques, Pierre et Jean, sur une haute montagne, dont la localisation est incertaine. Et en fait, le récit que Marc va faire, il renvoie à un épisode bien connu de l'Ancien Testament, il y a un parallèle assez fort. Quand Moïse monte seul sur le mont Sinaï pour recevoir la loi. Donc c'est dans Exode 24 et dans Exode 34. Et ce que je vous propose, c'est de lire juste 2 versets dans Exode 34, le verset 2 et le verset 29.
Sois prêt de bonne heure et tu monteras dès le matin sur le mont Sinaï. Tu tiendras là, devant moi, sur le sommet de la montagne. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main, en descendant de la montagne. Et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel.
On voit le parallèle, hein, le visage de Moïse qui rayonne, mais ici quand même l'ampleur du phénomène est bien plus importante, et c'est bien plus qu'un simple rayonnement, parce que on peut parler de transformation, parce que non seulement il y a le visage, il y a les vêtements, mais même Marc finalement peine un peu à trouver les mots pour décrire ça. Il essaye de décrire avec des images qui parlaient à son temps, hein, l'image du blanchisseur notamment. Mais le terme grec qui a été traduit par transfigurer, en fait, c'est métamorpho qui a donné métamorphose hein, plus tard. En fait, ce que Pierre, Jacques et Jean ont vu dépasse l'imagination humaine. Une autre différence majeure, c'est que Moïse, en redescendant de la montagne, il mettait un voile. Et la deuxième épître aux Corinthiens nous dit qu'il mettait ce voile pour que les Israélites ne voient pas cette gloire disparaître, s'estomper. Et là, Jésus, il a le visage découvert. Et on sait, de par d'autres passages, que le voile est ôté en lui, et c'est en lui qu'on contemple la gloire de Dieu. C'est une gloire qui ne s'efface pas, qui ne disparaît pas. Alors ça, c'est le premier parallèle, mais il y en a un autre aussi, parce qu'il y a une autre occasion où il y a eu une rencontre avec Dieu sur le mont Horeb, le mont Sinaï. Et cette rencontre, c'est la rencontre entre Dieu et le prophète Élie. Quand il était en proie au désespoir, le prophète Élie s'est rendu à la montagne de Dieu. Et là, l'Éternel lui a demandé, dans un murmure doux et léger, « Que fais-tu ici, Élie ?» Ici, pareil, il y a un contraste assez fort, parce que Jésus ne vient pas dans le désespoir, en fait. Hein, sa venue sur la montagne, c'est une œuvre de puissance. Et puis, comme il le dit au verset 1, et puis même, il va accomplir sa mission jusqu'au bout, contrairement à Élie et Moïse. Alors, Élie, en fait, la fin de son ministère, elle était un peu en demi-teinte. Il y avait un peu un bout d'inachevé. Je ne peux pas développer parce qu'on n'a pas le temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir à la fin. Et Moïse, ben, on a vu aussi à la fin de son ministère, finalement, il n'a pas pu entrer dans la terre promise parce qu'il avait péché devant Dieu, il avait échoué. Et là, ben, juste après, on voit ces deux personnages qui rejoignent le Seigneur, donc Élie et Moïse, les représentants de la loi et des prophètes, qui s'entretiennent avec celui qui est venu pour accomplir la loi et les prophètes. Et on voit aussi les disciples qui sont complètement désorientés. Marc nous explique qu'ils étaient dans la crainte, en fait. Et ça nous montre aussi que Jésus, bah, oui, il est pleinement homme, mais il est pleinement Dieu. Et on le voit dans les Écritures, à travers toutes les Écritures. Quand l'homme est confronté à Dieu, il est saisi par la crainte. Et, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Et là, soudain, il y a la nuée qui survient, et c'est à nouveau un renvoi à l'épisode, au récit d'Exode. Donc on peut prendre Exode 34:5. Si vous voulez, je vais le lire. Donc, Exode 34, verset 5. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là près de lui, et proclama le nom de l'Éternel. Donc, descendit dans une nuée. Et ensuite, bah, il y a ce fameux passage où l'Éternel passe devant Moïse et proclame son nom. Et sauf qu'ici, dans Marc, il y a alors ni la loi et les commandements qui avaient été donnés à Moïse, et puis on ne voit pas Dieu proclamer son nom, mais en fait, on le voit quand même faire entendre sa voix, un peu comme quand il y a eu le baptême de Jésus par Jean dans Marc 1, verset 11, et on voit Dieu dire « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le ». Et si vous vous rappelez bien, la semaine dernière, on avait vu un premier de Marc, c'est quand Pierre avait confessé le Christ, le Messie. Et en fait, ici, bah, Marc, il a commencé à démontrer que Jésus est le Fils de Dieu, venu souffrir, mourir et ressusciter. Et là, on voit Jésus recevoir la gloire du Père et la manifester à ses trois disciples. Et c'est la raison aussi pour laquelle Dieu ne proclame pas son nom, contrairement à Exode 34. En fait, Dieu révèle le Fils aux disciples, et le Fils est lui-même le reflet parfait de la gloire du Père. Dans Jean 14:9, hein, « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Mais il y a aussi une dernière allusion, c'est une allusion à Deutéronome 18:15, si quelqu'un peut le lire, Deutéronome 18, verset 15. C'est Moïse qui s'exprime.
L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez.
Vous l'écouterez. Donc on voit que Jésus aussi est le prophète qui devait venir, le prophète parfait, l'intercesseur parfait, le vrai pont entre la terre et le ciel, on doit l'écouter. Et ensuite, bon, on voit Jésus qui demande aux disciples de garder le silence jusqu'à sa résurrection. Ils vont obéir, mais on les voit, comme on en a parlé tout à l'heure, dans l'interrogation par rapport à la résurrection, ils ne comprennent pas. Il y a ce fossé culturel. Aujourd'hui, nous, ça nous semble naturel parce qu'on a toutes les Écritures, mais à l'époque des disciples, la résurrection, ça dépassait leur compréhension. Et ensuite, il y a une discussion au sujet d'Élie, probablement parce qu'ils viennent de voir Élie. Et en fait, alors, il y a un parallèle, c'est un passage un petit peu compliqué, il y a un parallèle entre à la fois le ministère et les souffrances de Jean-Baptiste, qui représente l'Élie qui devait venir, d'après les prophéties, et qui a été mis à mort par Hérode et Hérodiade. Et c'est mis en parallèle à la fois avec les souffrances qui attendent le Messie, mais aussi avec les souffrances passées du prophète Élie, qui avait été poursuivi par le roi Achab et la reine Jézabel. Je ne vais pas trop m'attarder sur ces versets, parce qu'il y a des interprétations quand même divergentes, et puis il y a des interrogations qui subsistent sur un accomplissement futur, une perspective future, et on n'a pas forcément le temps de développer. Mais s'il y a une chose à retenir de ce passage, c'est ce que j'ai noté sur le feuille, c'est que Jésus est le Fils bien-aimé de Dieu, celui qui accomplit toute la loi et les prophètes, et celui qui révèle la gloire de Dieu aux hommes, dont il faut écouter la parole. Pour faire le lien avec le plan de salut de Dieu, la bonne nouvelle, je vais reprendre un théologien, alors j'ai oublié son nom et je ne l'ai pas retrouvé malheureusement, qui disait que Jésus n'ayant jamais péché, au moment où il était sur cette montagne, il aurait pu retourner auprès de son Père dans la gloire. Ça n'aurait pas été un souci pour lui. Il est resté pour accomplir sa mission jusqu'au bout, et cette mission, elle l'a menée sur une autre montagne, celle de Golgotha, et sur cette montagne, le Père a détourné sa face de son Fils bien-aimé. Les applications maintenant. Donc sur la montagne, on a vu les disciples partager au point de vouloir à la fois dresser une tente pour demeurer en présence de la gloire de Dieu, hein, avec Pierre et de Moïse et Élie, et en même temps, on les a vus pleins de crainte. Et donc, j'ai une question, c'est ressentons-nous parfois de la crainte mêlée à un amour ardent, à l'idée de voir un jour la gloire et la puissance de Dieu? Et par ricochet, ça pose la question de notre rapport avec Dieu. Et on a besoin de se rappeler à quel point il est à la fois tellement proche de nous en Jésus-Christ et à la fois comment il est, à quel point il est différent, si différent de nous dans sa gloire infinie. Une autre application, c'est que le Seigneur ici nous appelle clairement à l'écoute de Jésus. Si Jésus c'est le Fils bien-aimé de Dieu, on ne doit pas lui donner moins que toute notre attention et toute notre obéissance. Je vous invite à prendre la suite, donc les versets 14 à 29, si quelqu'un veut le lire.
Lorsqu'ils revinrent vers les disciples, ils virent une grande foule qui les entourait et des disciples de la loi qui discutaient avec eux. Dès que tous ces gens aperçurent Jésus, ils furent très surpris et se précipitèrent à sa rencontre pour le saluer. « De quoi discutez-vous avec eux ?» leur demanda-t-il. De la foule, quelqu'un lui répondit, « Maître, je t'ai amené mon fils car il est sous l'emprise d'un esprit qui le rend muet. Partout où cet esprit s'empare de lui, il le jette par terre, de l'écume sort de la bouche de l'enfant qui grince des dents. Puis il devient tout raide. J'ai demandé à tes disciples de chasser ce mauvais esprit, mais ils n'ont pas pu le faire. Jésus s'adressa à eux et leur dit, « Gens incrédules, jusqu'à quand devrais-je encore rester avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Amenez-moi l'enfant. » On le lui amena. Mais dès qu'il vit Jésus, l'esprit mauvais agita convulsivement l'enfant et le jeta par terre. Celui-ci se roula sur le sol de l'écume à la bouche. « Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il » demanda Jésus à son père. « Depuis qu'il est tout petit. Souvent même, l'esprit mauvais le pousse à se jeter dans le feu ou dans l'eau pour le faire mourir. Si tu peux faire quelque chose, aie pitié de nous et donne notre aide. Si tu peux, » répliqua Jésus, « tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, mais aide-moi car je manque de foi. » Jésus, voyant la foule affluer, commanda avec sévérité à l'esprit mauvais. « Esprit qui rend sourd et muet, lui dit-il, je te l'ordonne, sors de cet enfant et ne rentre plus jamais en lui. » L'esprit poussa un grand cri, secoua l'enfant avec violence et sortit de lui. L'enfant resta comme mort, si bien que la plupart des témoins disaient « il est mort ». Mais Jésus, prenant l'enfant par la main, le fit lever et celui-ci se tint debout. Jésus rentra à la maison. Ses disciples qui étaient seuls avec lui lui demandèrent alors « Pourquoi n'avons-nous pas réussi à nous à chasser cet esprit ?» Jésus leur répondit « Des esprits comme celui-là, on ne peut les chasser que par la prière. »
Merci. Donc là, on voit Jésus qui redescend de la montagne avec Pierre, Jacques et Jean. Et puis, ils arrivent en vue des disciples. Et là, il y a de l'agitation avec une foule autour des disciples et des scribes qui sont en train de débattre. Et on voit aussi l'émotion de la foule à l'arrivée de Jésus. En fait, si on prend le grec, le terme il est assez fort. La foule, littéralement, elle est frappée d'étonnement, elle est stupéfaite au verset 15. Alors peut-être qu'ils ne s'attendaient pas à ce que Jésus arrive, hein, mais peut-être aussi que Jésus porte encore des traces de la transfiguration. Et ça formerait alors un contraste avec la réaction des Israélites dans l'Exode, qui avaient vu Moïse redescendre avec le visage rayonnant. Et ça, on le voit dans Exode 34, verset 30, si quelqu'un veut bien le prendre. Exode 34, 30.
Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici la peau de son visage rayonnée, et ils craignaient de s'approcher de lui.
Merci. Donc on voit que Moïse, qui redescend avec la loi, il fait peur, et les Israélites sont dans la crainte, mais on voit à l'inverse que Jésus, lui, il attire la foule. La foule se dirige vers lui. Et ensuite, on voit donc un homme qui va répondre à la question de Jésus. Et cet homme qui s'adresse à Jésus, en fait, il a son fils qui est possédé par un démon. Alors, le démon le rend peut-être muet, il fait mention d'un esprit muet. Et on voit surtout qu'il provoque des symptômes qui ressemblent à une sorte d'épilepsie. Et les disciples n'ont pas réussi à chasser ce démon. Et Jésus, il va être assez direct, il nous indique le problème au verset 19. Hein, et il emploie à nouveau le terme « génération », si vous vous rappelez, la semaine dernière, on l'avait vu, qui est parfois traduit aussi « race ». C'est le terme avec lequel il avait répondu aux pharisiens endurcis dans Marc 8. Et il y a à nouveau un parallèle avec l'Exode et avec Moïse. Mais cette fois, ce que je vous propose, c'est de lire le psaume 106, les versets 20 à 21. Agitation et incrédulité. Il y a les Israélites qui ont fait un veau d'or et qui se sont mis à adorer ce veau en ne voyant pas Moïse redescendre. Et là, à nouveau, on voit le Seigneur qui redescend d'une montagne et qui se trouve confronté à de l'incrédulité. Et le terme génération englobe tout le monde, hein, la foule et les disciples. Et en fait, on voit que la foule est venue à Jésus. Instinctivement, elle est attirée par Jésus, mais elle n'est pas venue avec confiance vers son Dieu parce qu'elle est incrédule. Et on voit Jésus, qui va bientôt endurer les pires souffrances hein, pour des pécheurs, qui est affligé par leur manque de foi, qui dit « Jusqu'à quand serai-je avec vous ?» Jusqu'à quand ? Et en fait, le révélateur, c'est l'échange entre Jésus et le père de l'enfant. On voit Jésus questionner le père, mais en même temps, on connaît la réponse. Et en réalité, il veut que le père verbalise. Alors bien sûr, d'abord, la détresse qu'il vit avec sa famille et cet enfant qui est possédé depuis tout petit. Mais surtout, il veut que le père verbalise son problème spirituel. Et c'est ce mot « si »,« si tu peux », c'est l'élément clé de la réponse. On voit cet homme désespéré, il a eu le bon réflexe en amenant son fils aux disciples et à Jésus, mais on voit qu'il n'y a aucune certitude concernant Dieu, concernant le Messie de Dieu. Et qu'il est dans le doute, malgré tout ce que Jésus a déjà accompli, malgré tous les miracles. Et c'est peut-être aussi à cause de l'échec des disciples. Et en tout cas, il y a ce « si tu peux » qui est lourd de sens. Et pourtant, ce père de famille va comprendre, qui est resté anonyme d'ailleurs, on n'a pas son nom, il va comprendre quelque chose d'essentiel ici, parce que si Jésus il a guéri beaucoup d'incrédules, et guéri de maladies physiques, sans nécessairement que ces incrédules placent leur confiance en lui, et on a vu beaucoup de gens qui sont restés dans leur endurcissement, hein, je pense aux lépreux qui sont repartis, et il y en a un seul qui est revenu. Mais ici en fait, plus que l'enfant, alors bien sûr Jésus veut guérir l'enfant, mais plus que l'enfant, c'est la foi de cet homme que Jésus veut guérir. Et Jésus lui donne une piste en disant « Tout est possible pour celui qui croit ». Et ça nous montre que la foi en Christ, elle est infiniment supérieure à ce que tout homme peut imaginer. Elle regarde à Jésus et elle sait que Jésus peut tout. Alors, petite parenthèse, ça ne veut pas dire que Jésus veut tout. Et c'est au sujet de cette foi que cet homme, il a un problème. Pourquoi ? Parce que cet homme, il fait partie d'une génération perverse et corrompue. C'est la génération qui a tué Jean-Baptiste, qui n'est pas différente de la génération des Israélites au désert, de l'Exode, hein, qui étaient des idolâtres, qui n'est pas différente de notre génération aujourd'hui, ni du reste de l'humanité. Et en fait, par ses paroles, Jésus l'encourage à regarder à lui. Et cet homme en l'occurrence, veut croire. Et donc on le voit faire une requête, une prière magnifique, presque une profession de foi et un cri du cœur, quand il dit « je crois, viens au secours de mon incrédulité ». Et en fait, dans le grec, le mot « incrédulité », c'est un nom, il est apparenté au mot qu'on a vu au verset 19, hein, avec la génération incrédule, l'adjectif tout simplement. Et on peut aussi le traduire par « manque de foi » ou « manque de confiance ». Et on voit que même pour la foi, on a besoin du secours de Jésus. Le Père, il veut avoir une pleine confiance, mais il sait qu'il a besoin que Jésus guérisse son cœur incrédule. Et on arrive au dénouement. Le Seigneur, il ne reste pas insensible à ce qui crie à lui, bien sûr. Et malgré le fait que le démon malmène violemment cet enfant, son heure est venue et Jésus le chasse de l'enfant. Et on voit la foule qui est avide de spectacle, probablement qui se précipite. Et juste, je voudrais faire remarquer comme l'expulsion, elle est définitive et immédiate. Une fois pour toutes. À la fin du passage, au verset 28 et 29, on apprend enfin pourquoi les disciples n'ont pas réussi à chasser le démon. Jésus, il leur indique que dans ce cas précis, seule la prière pouvait fonctionner. Alors, ça nous montre aussi que les apôtres eux-mêmes n'étaient pas appelés à imiter Jésus en tout, d'une part. Jésus, lui, chasse ce démon par sa parole, parce qu'il peut tout, mais il ne confère pas forcément à ses disciples une telle autorité. Et pas systématiquement. Ici, il n'aurait pu agir que par la prière, en l'occurrence. Mais, par manque de foi, ils n'ont même pas eu ce réflexe de prier. Donc le message central de notre passage ici, c'est que l'être humain, il a besoin de Jésus pour croire, car Jésus est celui qui peut tout. Jésus est celui qui met en échec l'œuvre du diable et qui nous libère de la puissance de l'ennemi et de l'incrédulité. Pour faire le lien avec le plan de salut de Dieu, avec l'Évangile, on voit Jésus en redescendant a trouvé l'incrédulité comme Moïse, mais il n'est pas descendu de la montagne avec les tables de la loi, et il n'a pas non plus fait tomber son jugement comme au temps de l'Exode, lorsque l'Israélite adorait le veau d'or. Non, Jésus, celui qui accomplit lui-même la loi, il est venu pour sauver des âmes incrédules. Et comment? En prenant à leur place le jugement de Dieu. Moïse, il avait plaidé pour éviter la destruction du peuple, et aujourd'hui, Jésus plaide pour nous, mais sur la base d'une œuvre bien supérieure, c'est celle de la croix du calvaire. Si on passe maintenant aux applications, je vous en propose deux. La première, c'est que vous souhaitiez placer votre confiance en Jésus-Christ, ou que vous l'ayez déjà fait, je nous encourage à prier de toutes nos forces à Dieu comme l'homme de ce récit. Parce qu'on a besoin de Jésus pour venir à lui, mais on a aussi besoin de Jésus pour que notre foi, elle s'enracine et elle demeure ferme en lui. Et puis, comme évoqué la semaine dernière, on en avait parlé, avons-nous le réflexe de poser des questions dans les discussions importantes? Là, on voit que, encore une fois, c'est les questions de Jésus qui ont amené le dénouement. Et ici, là, il y avait un sujet, c'était la souffrance de cette famille, de ce père de famille avec son fils possédé. Et cette souffrance, elle en cachait une autre bien plus grande, c'était une soif spirituelle, une souffrance spirituelle. Voilà, je vous propose de prendre la suite, on va lire les versets 30 à 50. Si quelqu'un peut le lire.
Étant sorti de là, ils traversèrent la Galilée et il ne voulut pas que personne ne sache. Car il enseignait ses disciples et leur disait, le Fils de l'homme est livré entre les mains des hommes, et il le ferait mourir. Et ayant été mis à mort, il ressuscitera le troisième jour. Mais ils ne comprenaient pas ce discours, et ils craignaient de l'interroger. Il vint à Capernaum, et quand il fut dans la maison, il leur demanda, « Sur quoi raisonniez-vous en chemin ?» Et ils gardaient le silence, car ils avaient discuté entre eux en chemin qui serait le plus grand. Et lorsqu'il se fut assis, il appela les douze et il leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Ayant pris un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux, et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit, « Quiconque recevra l'un de tels petits enfants à mon nom me reçoit, et quiconque me recevra, ce n'est pas moi qui le reçoit, mais c'est celui qui m'a envoyé. » Et Jean lui répondit, disant, « Maître, nous avons vu quelqu'un qui chassait des démons en ton nom. » Qui ne nous suit pas, et nous le lui avons défendu parce qu'il ne nous suit pas. Et Jésus leur dit, ne le lui défendez pas, car il n'y a personne qui fasse un miracle en mon nom, et qui puisse aussitôt mal parler de moi, car celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Car quiconque vous donnera à boire une coupe d'eau en mon nom, parce que vous êtes de Christ, en vérité, je vous dis qu'il ne perdra point sa récompense. Et quiconque sera une occasion de chute pour un des petits qui croit en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui mette au cou une pierre de meule et qu'il soit jeté dans la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Il vaut mieux pour toi d'entrer estropié dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans le géhenne, dans le feu inextinguible, là où leur ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Et si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Il vaut mieux pour toi d'entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu inextinguible, là où les vers ne meurent pas et où le feu ne s'éteint pas. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Il vaut mieux pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne de feu, là où leurs vers ne meurent pas et où le feu ne s'éteint pas. Car chacun sera salé de feu, et tout sacrifice sera salé de sel. Le sel est bon, mais si le sel devient insipide, avec quoi lui donnerez-vous la saveur? Ayez du sel en vous-même, et soyez en paix entre vous.
Merci. Donc là, on voit que Jésus et ses disciples, ils ont pris la route pour le dernier voyage du Christ en direction de Jérusalem. On les voit traverser à nouveau la Galilée, et cette fois, ils le font en secret. Le ministère du Seigneur dans cette région, il a déjà pris fin, on en avait parlé la semaine dernière. Et là, il veut se consacrer à enseigner ses disciples. On le voit à nouveau leur annoncer sa mort et sa résurrection. Et on voit que les disciples ne comprennent toujours pas. Mais depuis que Pierre a été corrigé par le Seigneur, ils n'osent plus interroger Jésus. Ils ont été un peu refroidis. Et comme la fois précédente, on voit à nouveau les disciples qui sont à côté de la plaque, qui vont se planter. Ils sont encore loin de comprendre ce qu'implique la mission de Christ et la vie de disciples. Et en fait, Jésus va les interroger sur leur discussion, et on les voit garder un silence un peu honteux, probablement. Jésus, il sait très bien ce qu'il en est. Et en fait, probablement motivé par l'orgueil et la perspective d'une bonne place lors du règne à venir du Messie, ils étaient en train de s'interroger pour savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Et là, Jésus va leur enseigner quelque chose qui est encore révolutionnaire, en leur disant que le plus grand parmi les disciples, le plus grand dans le royaume du Messie, ce sera celui qui s'humilie en adoptant la position la plus humble et la plus basse, la position du serviteur. Donc à nouveau, on retrouve une dimension de mort à soi-même, hein, mourir un peu à ses rêves de gloire. Et pour illustrer ces paroles, Jésus va utiliser une image très forte, il va faire venir un enfant. Alors, pareil, pour replacer un peu dans le contexte culturel, il faut voir qu'à l'époque, les enfants étaient beaucoup plus vulnérables qu'aujourd'hui. Alors, dans la loi juive, on a quelques rares dispositions qui protègent les enfants, mais en droit romain, l'enfant, il était totalement à la disposition du père de famille. Le père de famille pouvait lui infliger des sévices violents, pouvait le tuer même, sans avoir à rendre compte à qui que ce soit. Donc vraiment, c'est l'individu le plus faible, le plus vulnérable dans la société de l'époque, probablement autant, voire plus qu'un esclave. Hein. Et le Seigneur nous dit, celui qui accueille un enfant en son nom, l'accueille lui-même, et accueille le Père. Ça nous montre l'importance que Jésus accorde à ceux dont la condition est la plus humble, ceux qui sont dans la situation de dépendance la plus totale au Père. Parce que c'est aussi eux dont le cœur est le mieux disposé à le recevoir. Et le disciple, c'est celui qui ira jusqu'à accueillir et servir, se mettre au service de ceux qui sont pourtant ignorés de la société. Donc c'est vraiment l'attitude la plus humble qui soit. Donc je parlais de mort à soi-même, mais c'est aussi une attitude qui est nécessaire pour la conversion. Celui qui vient à Christ, bien souvent, c'est celui dont le cœur a été brisé et humilié. Et si on prend le début du sermon sur la montagne, Jésus, dans Matthieu 5,3, je vais le lire, hein, si vous voulez, il nous dit: heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Et l'exemple absolu d'une telle humilité, c'est le Seigneur, hein, bien sûr, qui s'est abaissé jusqu'à venir sur terre et qui, là, il vient d'annoncer qu'il irait jusqu'à la mort de la croix. Ensuite, on voit Jean, et ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, qui interpelle le Seigneur et qui lui explique qu'ils ont tenté d'empêcher un homme de chasser des démons au nom de Jésus. Pourquoi ? Parce qu'il ne suivait pas le groupe, il ne nous suit pas. Alors bien sûr, il y a un lien avec tout ce qui précède, donc je vais récapituler un petit peu. On a les disciples qui échouent toujours à comprendre qui est vraiment Jésus, qui sont allés jusqu'à s'opposer à sa mission, hein, avec Pierre comme porte-parole, qui ont échoué à chasser le démon de l'enfant muet épileptique, qui manifestent maintenant leur orgueil en cherchant à savoir qui est le plus grand. Ben, ces mêmes disciples, par orgueil, ils sont allés s'opposer à un homme qui lui chasse vraiment des démons au nom de Jésus, et ils l'ont fait au motif que ce dernier ne les suit pas. Il ne nous suit pas. D'ailleurs, remarquez le « nous ». C'est pas « il ne te suit pas », c'est « il ne nous suit pas ». Et le Seigneur, il répond avec deux points. Le premier, c'est qu'en disant que quelqu'un qui a accompli un vrai miracle en nom du Christ ne peut pas ensuite immédiatement parler en mal de lui. Et deuxièmement, bah, celui qui ne nie pas l'identité et la mission du Christ, finalement, il ne s'oppose pas à lui, en fait. Il œuvre pour le royaume et pas contre le royaume. En réalité, les disciples, ils n'ont aucune raison valable de s'en préoccuper. Et au contraire, ils devraient plutôt s'inquiéter de leur propre situation spirituelle. Et Jésus, il va aller plus loin. Il va leur indiquer que le simple fait de donner un verre d'eau à un disciple du Christ qui a soif, parce que ce dernier est un disciple, c'est un acte qui sera récompensé dans le royaume. Alors, c'est moins spectaculaire qu'un exorcisme, hein, mais il nous dit, en gros, si la motivation elle est juste, elle sera récompensée devant Dieu. Et c'est l'attitude que les enfants du Seigneur devraient avoir les uns envers les autres. Et à l'inverse, donc on a un contraste, celui qui cause la chute d'un petit dans la foi, que ce soit un enfant ou un jeune converti, ben celui-là, il est en grand danger. En fait, dans le contexte, on peut supposer que Jésus parle en réalité de ce qui vient de se passer avec cet homme que les disciples ont essayé d'empêcher d'agir. C'est probable que les disciples aient été une occasion de chute pour lui. Il était en train de mettre sa petite foi en œuvre au service du royaume, et eux, au lieu de l'encourager ou de lui donner à boire une simple coupe d'eau, ils sont allés le voir et ils ont dit « Non, tu ne nous suis pas, il faut que tu arrêtes ». En fait, dans leur orgueil, ils l'ont réprimandé. Et on voit ensuite tout un passage où Jésus lance des avertissements concernant les occasions de chute. Alors, on retrouve ça aussi dans le sermon sur la montagne. Alors, est-ce que c'est Marc qui volontairement a placé ça ici, ou est-ce que c'est Jésus qui l'a répété? Moi, j'ai tendance à penser que c'est Jésus qui l'a répété, parce qu'on voit que les disciples ont besoin qu'on leur répète les choses. Mais en tout cas, voilà, il parle des occasions de chute propres à l'individu, et l'orgueil des disciples, en l'occurrence, est une occasion de chute. Donc ça fait tout son sens. Jésus montre comment le disciple doit être radical à l'égard de ce qui peut l'amener à chuter, ce qui peut l'amener à tomber dans le péché. Et il utilise une métaphore qui est assez parlante, c'est le fait qu'il vaut mieux perdre un membre de son corps, alors on a les yeux, etc., que de finir en enfer. Alors je précise que c'est une métaphore parce que malheureusement pour l'histoire il y a des chrétiens qui l'ont pris au mot et ça a été assez dramatique. Ici donc c'est une métaphore et ce qui devrait d'ailleurs nous interpeller c'est plus ce qui met en parallèle c'est la gêne en fait. Parce que bon, arracher un œil, couper une main, on dit ah, c'est un peu bizarre. Mais en fait il dit vaut mieux ça que de tomber dans la gêne. Et en fait le mot grec il vient de l'hébreu, c'est Gehinnom et ça veut dire vallée de Hinnom, la vallée des fils de Hinnom. Et c'était un endroit qui était au sud de Jérusalem. Dans le passé, c'est là où les rois israélites mauvais, les israélites idolâtres, c'est là où ils faisaient passer leurs enfants par le feu en sacrifice au dieu Moloch. Donc c'est un lieu de triste réputation. Et à l'époque de Jésus, c'est aussi un lieu impur. C'est un lieu où on brûle toutes les ordures de la ville. Donc un endroit assez dégoûtant, où l'odeur est vraiment abominable, et il y a un feu continu, une fumée continue. Et donc voilà, je vous laisse imaginer, sachant que Jérusalem était quand même déjà une grande ville. Et au verset 48 d'ailleurs, Jésus va parler d'un ver qui ne meurt pas, d'un feu qui ne s'éteint pas. Ensuite, les versets 49 à 50, ils sont assez compliqués. Alors, pour vous donner une idée, juste sur le verset 49, il y a au moins 15 interprétations différentes. Donc voilà, je ne vais pas trop m'avancer. Je vous en partage deux et je laisse ça à votre discernement. Donc certains disent que c'est un contraste que Jésus propose entre le sel du jugement au verset 49 qui s'abattra sur quiconque n'appartient pas au Seigneur et le sel de la souffrance et de la persévérance qui sont nécessaires à la sanctification du chrétien, donc au verset 50. Alors ça serait peut-être cohérent avec les métaphores qu'on a vues juste avant. Il y en a d'autres qui pensent que donc le verset 49, au contraire, il évoquerait la souffrance nécessaire à la sanctification du chrétien et le verset 50 parlerait lui du sel de la grâce. Ça serait aussi cohérent avec ce qui précède, puisque on a vu les disciples manquer de grâce. Après, quelle que soit l'interprétation, la conclusion, elle est sans appel. Soyez en paix les uns avec les autres. Là, on reboucle avec le comportement des disciples. Voilà, donc l'idée centrale de notre passage, c'est qu'à l'image du Christ, le disciple, c'est celui qui s'abaisse et qui meurt à lui-même. Au lieu de décourager son frère, il se met à son service. Pour faire le pont, le lien avec l'Évangile, le plan de salut de Dieu, ben Jésus, lui qui n'a jamais péché, qui n'a jamais été une occasion de chute pour qui que ce soit, ben c'est l'exemple parfait d'abaissement et d'humiliation, de service, d'encouragement. Il s'est humilié en allant jusqu'à la mort de la croix, et il est véritablement devenu le dernier des hommes avant d'être élevé à la plus haute place. Et puis aussi, alors, petite chose que je trouve intéressante, c'est qu'après sa résurrection, Jésus, il est venu, non pas pour accabler ses disciples, non pas pour les critiquer, parce que ses disciples avaient abandonné, hein, ils n'ont pas suivi, Pierre l'a même renié, non, il est venu pour les affermir, les fortifier et les encourager en vue de leur ministère à venir. Je vous propose trois applications à ce passage. La première, c'est un petit peu une interrogation sur la place qu'on cherche dans l'église locale. Est-ce qu'on cherche la première ou la dernière place ? Et dans le reste de nos vies, dans notre travail par exemple. Alors à titre personnel, je dois dire que quand je vois le service humble et discret de certains frères et sœurs dans notre assemblée, je suis quand même humilié et admiratif. On a des frères dans l'église qui sont très discrets, qu'on voit très peu, mais qui ont un service fidèle, et ils cherchent pas la première place, mais ils servent avec persévérance. Et le passage m'a repris, je me suis posé la question, et je vous pose aussi la question, ai-je cette attitude humble de serviteur, d'enfant du Seigneur dans l'Église et dans ma vie quotidienne ? Deuxième application, c'est aussi une question, mettons-nous cette attitude de serviteur en œuvre, y compris auprès de chrétiens qui n'agissent pas comme nous le voudrions ? Alors, on a vu les disciples hein, avec cet homme qui chassait des démons. Et puis troisième application, le Seigneur nous appelle à la radicalité, et on doit absolument, absolument veiller à ne pas causer notre propre chute, ni la chute d'un frère. Et ça peut impliquer de sacrifier des fois des préférences personnelles, ça peut impliquer aussi des fois de sacrifier des convictions sur des choses secondaires, et ça peut aussi vouloir dire de ne pas agir de sorte à engendrer une tentation ou un obstacle pour un frère ou une sœur ou pour soi-même. Alors, j'ai pas le temps d'aller plus loin dans le concret, si vous souhaitez en parler, n'hésitez pas à venir me voir. Mais pour conclure tout ce qu'on a lu ensemble là, je voudrais vous proposer de lire Ésaïe 42, verset 16, si quelqu'un veut bien le prendre.
Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas, je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent, je changerai devant eux les ténèbres en lumière, et les endroits tortueux en pleine. Voici ce que je ferai, et je ne les abandonnerai point.
Merci. Voilà, je voulais vous laisser sur ce passage. On voit Jésus ici, un début d'accomplissement de cette prophétie. On voit Jésus qui enseigne ses disciples et qui commence à les conduire sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. En l'occurrence, c'est le chemin qui va le mener, lui, à la croix. Et puis c'est le chemin qui va mener à la naissance de l'Église. Voilà, si vous avez des remarques ou des questions, je me tiens disponible.
Moi, j'ai deux traductions du verset de Marc 9, 29. Parce que là, c'est écrit que ce démon, il sort par la prière. Et moi, j'ai une autre version qui dit que ce type de démon, il sort pour le jeûne et pour la prière.
Oui, alors effectivement, il y a certains manuscrits qui portent seulement la prière, et dans d'autres manuscrits, il fait mention aussi du jeûne.
Alors, on reste avec la prière ou avec le jeûne après ?
Dans tous les cas, ça dépend des
circonstances.
On est sur des circonstances particulières, mais dans tous les cas, on voit que les disciples ont manqué de foi parce qu'ils n'ont même pas pensé, alors ne serait-ce qu'à prier, voire même à jeûner. Mais l'application reste celle-là, c'est-à-dire se tourner vers le Seigneur. Et je ne sais pas s'ils auraient pu jeûner dans le contexte où ils étaient avec la foule autour d'eux.
Ils jeûnaient pas.
Mais en tout cas, prier, ça les aurait pu. Oui,
mais c'est juste pour qu'on sache, des fois, ça peut avoir.
Est-ce qu'on ne peut pas peut-être penser sur ça, qu'il y a des combats spirituels finalement qui sont un peu plus importants que d'autres? Il y a des choses, on a parlé dimanche de la persévérance, on a des combats, on sait que notre combat il n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances de méchanceté spirituelle. Et est-ce qu'on n'a pas certains combats dans notre vie où il ne faut pas lâcher justement, et qui demandent plus d'énergie, plus de temps, plus de consécration pour avoir justement cette victoire?
En fait, on voit vraiment que, en fait, ce que le Seigneur leur dit, c'est qu'ils ont besoin d'une dépendance, être totalement dépendant de lui. C'est ce que tu as expliqué, Boris, et tu as raison. C'est vrai que dans le quotidien, on a aussi besoin d'être dépendant, et dans certaines situations, c'est encore plus peut-être marqué.
Et en même temps, c'est encourageant parce que tout le monde peut être dépendant et peut prier, quoi. On n'a pas besoin d'être un super serviteur pour rentrer dans le combat spirituel.
Puis on voit aussi au passage que même au travers du ministère de Jésus, les disciples ont eu des échecs. Donc ça introduit cette notion aussi de même si effectivement ils auraient pu peut-être prier ou mais après peut-être qu'ils ont prié. Enfin c'est pas très clair, mais on comprend qu'a priori non. Mais ça montre voilà que des fois effectivement il faut s'en remettre entre les mains du Seigneur. Et même eux, pendant le ministère de Jésus, ils ont eu des échecs.
Moi, il y a un passage cette semaine qui m'a beaucoup touchée, Job. Quand ses amis ont parlé avec lui, ils ont dit, t'es en train de passer tout ça, je vais résumer, parce que t'as commis un péché, parce que t'as commis ça, t'as pas fait la volonté de Dieu, t'as pas bien été comme Dieu voulait, c'est pour ça que t'es en train de passer tous ces malheurs. Et en fait, c'est pas ça. Dieu, quand il nous fait passer, comme cet enfant qui a été avec l'esprit, Dieu voulait montrer aux disciples qu'il faudrait que, avec ce type de démons, il a plusieurs types de démons comme il a plusieurs types d'anges. Parce que les démons étaient des anges. Il a plusieurs catégories aussi dans son, voilà, soi-disant. À des combats spirituels très violents et à des combats. Un combat spirituel, c'est toujours un réveil pour nous aussi, des fois, pour s'approcher plus de Dieu. C'est aussi pour qu'on soit dépendant de Dieu, toujours, mais il faut s'approcher plus. Des fois, juste la prière, c'est pas suffisant. Juste venir à l'église, c'est pas suffisant. Dieu veut plus de nous, plus d'intimité avec nous. Et avec nos frères et sœurs aussi, avec nous tous ensemble, on est des frères et sœurs en Christ. Et plus on est proche de Dieu, plus on est. Oh, ça va bien entre nous.
Alors, si vous voulez, on peut lire Matthieu 17, versets 20 et 21, qui nous donne notre lien sur ce passage. Je vais le lire si vous voulez. Donc, c'est Jésus qui parle. Les disciples le questionnent, pourquoi nous n'avons pas pu chasser des démons. Et au verset 20 du chapitre 17 de Matthieu, Jésus répond, c'est parce que vous manquez de foi, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque-là, et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. Cependant, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Voilà. Le verset 21 est absent de certains manuscrits. Mais donc on voit que là l'emphase est sur la foi. C'est bien et dans Marc également, on a vu l'incrédulité de la foule et la prière de ce père de famille. D'autres remarques, d'autres questions? Si quelqu'un veut prier pour clôturer.
Merci Seigneur Jésus de ce que tu nous conduit par des chemins que nous ne connaissons pas. Tu l'as fait avec tes disciples. Ça, c'est la marche par la foi, Seigneur, de dépendre de toi, de compter sur toi, jour après jour, Seigneur. Merci parce que tu es le Dieu qui entend nos prières, qui écoute et qui répond de la meilleure des façons, Seigneur. Nous ne savons pas toujours ce que nous devons choisir, quelle décision prendre, quelle voie suivre, mais Seigneur, toi, tu nous inspires par ton esprit, tu disposes des cœurs aussi, des personnes à qui nous avons affaire. Et, Seigneur, nous te prions, oui, en effet, que tu nous montres aussi l'importance de la prière, même du jeûne, s'il le faut, Seigneur, parce que c'est vrai que nous devons confesser que nous ne passons pas assez de temps dans ta présence, dans la prière, et Seigneur, là, tu nous montres qu'il y a des moments où vraiment c'est par la prière que les nœuds peuvent se défaire, que les situations peuvent se débloquer. Et Seigneur, vraiment, mets-nous cela à cœur, de nous pratiquer ces choses, Seigneur, pas seulement les croire dans notre tête, mais à les vivre dans notre marche chrétienne. Te le prions, dans ton nom béni, Seigneur Jésus.
Amen. Amen. Amen.